Alors ce matin, cette affiche vous rappelle quelque chose, hein, j'imagine. Le festival qui s'est achevé, les tapis rouges se replient là aujourd'hui, les projecteurs se sont éteints, les visages sont disparus là des écrans. Et on peut se demander que reste-t-il de tout cela quand les lumières s'éteignent. En même temps, il ne faudrait pas opposer trop vite, il me semble, et trop facilement, cinéma et évangile, comme si l'un relevait uniquement du spectacle et l'autre du salut. Ce serait trop simple, et puis ce serait faux. Le cinéma n'est certes pas l'évangile, et je tiens à le préciser tout de suite, mais il peut en être l'un des échos. Il ne sauve pas, mais il peut réveiller. Alors, il ne révèle pas Dieu au sens où l'Écriture le révèle, mais il peut, je crois, entrouvrir une fenêtre très intéressante pour le percevoir. Et ce matin, donc, j'aimerais vous inviter à entrer dans cette réflexion spirituelle avec cette proposition, le Christ hors champ, une façon de lire le monde à la lumière d'une présence discrète. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant, en fait, à mes yeux, dans le cinéma, et en même temps paradoxal, c'est qu'il ne montre jamais tout. J'en parlais ce matin dans l'émission sur France Culture, justement, avec le photographe Jérémy Corbeau, que vous connaissez peut-être, qui vient des Églises Libres, qui travaille au GBU, et qui est photographe. Et dans cette émission, et c'est aussi valable pour le cinéma, je relevais que la photographie, et donc un film également, est un art du cadre. Le photographe ou le cinéaste choisit ce qu'il montre, en fait. Ce qu'il tait aussi, ce qu'il suggère. Il va éclairer un visage, par exemple, il va laisser un autre dans l'ombre. Il va mettre une parole au premier plan, tandis qu'un drame plus profond va pouvoir se jouer en silence, peut-être, à l'arrière. Il raconte autant avec ce qu'il donne à voir qu'avec ce qu'il laisse hors champ. Et je trouve que c'est une magnifique entrée théologique, finalement, car la foi aussi apprend à regarder ainsi. Elle apprend que tout ne se joue pas dans le visible, que l'essentiel n'est pas toujours au cœur, au centre de l'écran, que ce qui sauve n'est pas toujours dans la lumière et que Dieu travaille souvent, lui aussi, hors champ. Alors, quelques mots peut-être sur cet hors champ, une expression qu'on utilise au cinéma, dans la photographie également. Ce hors champ, c'est ce qui échappe en fait au regard, mais non au sens. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez une manière de cadrer les choses qui vous permet d'en voir certaines, mais de ne pas tout voir et de pouvoir aussi imaginer, de pouvoir laisser votre regard envisager d'autres choses autour. C'est une manière de faire très utilisée donc dans la photo et au cinéma et qui, pour moi, est quelque chose d'important. Dans un film, soyons précis, le hors-champ n'est pas ce qui n'existe pas, donc, mais c'est ce qui n'est pas montré, mais qui agit pourtant, qui joue un rôle et qui fait sens, dans cette perspective notamment que cela fait partie intégrante de la mise en scène, du montage, de tout le travail d'un cinéaste et de son équipe. Ce n'est pas juste quelque chose qui est passé à l'as, qui a été oublié, c'est quelque chose de voulu. On ne le voit pas toujours, même jamais en fait, puisqu'il est hors champ, mais je veux dire, on ne s'en rend pas toujours compte, mais pourtant, il est là, il donne au récit sa profondeur, et il habite l'image sans la réduire. Et précisément, il me semble qu'il en va souvent ainsi aussi de Dieu. Alors, on va essayer de comprendre cela, notamment à la lumière d'un texte. Notre monde contemporain, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, et peut-être encore plus après Cannes, est saturé d'images et croit volontiers que n'existe que ce qui se voit, que ce qui se montre, que ce qui se prouve en fait, que ce qui s'expose. C'est un danger d'ailleurs, surtout aujourd'hui, on le sait, avec notamment l'IA, toute cette possibilité de falsifier l'image. Et ce qui avant était un peu une norme, on l'a vu à la télé ou on l'a vu dans tel magazine, aujourd'hui n'a plus vraiment de sens, parce qu'on peut vous montrer ce qu'on veut sans que cela ait forcément existé. Alors bien sûr, avec Cannes, et au-delà des films projetés, dans tous les à côté de ce festival, dans son prestige, dans ses paillettes, plus qu'aucun autre lieu, je pense, cette logique est poussée jusqu'à son sommet. Tout y semble affaire de lumière, de visibilité, d'apparition. Il faut être vu. Vu sur les marches, il faut... Alors, moi aussi, j'ai fait des photos sur les marches, mais on sent que pour certaines personnes, cela prend beaucoup plus d'importance. Et pourtant, même à Cannes, dans ces mêmes conditions, dans ces mêmes lieux, pendant ce même festival, les films les plus profonds sont souvent justement ceux qui nous font sentir qu'autre chose se joue. Que derrière le cadre, sous les mots, au-delà de l'évidence, le cinéma, dans ses plus beaux moments, nous rééduque à cela, voire plus que ce qui est montré. Je vous ai mis trois titres de films qui me sont revenus à la pensée en préparant cette prédication. L'année dernière, ce film « Sirade », qui pour moi est un film absolument extraordinaire, je l'ai mis comme étant mon film de l'année, prix du jury à Cannes. « Perfect Days », peut-être l'un de mes films préférés de Wim Wenders. Et puis « Vers la lumière », un film « Perfect Days » et « Vers la lumière » ont reçu tous les deux le prix du jury œcuménique. « Vers la lumière », un film magnifique, parabolique, d'une façon assez extraordinaire aussi. Des films, voilà, qui ne cherchent pas à paraître, qui ne forcent rien, mais qui donnent à voir autrement. Et là, je crois qu'il y a vraiment déjà une vraie pédagogie spirituelle. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, on l'a déjà fait avant, mais on va continuer. Je vous propose d'aller avant la Pentecôte, dans un récit qui précède tout cela. Quelques jours avant, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. C'est un texte d'une beauté redoutable pour moi. C'est un véritable scénario de film, cousu de fines dentelles, qui mêle suspense, profondeur, humour, surprise, surnaturel même, et puis relations humaines et spirituelles. C'est un chef-d'œuvre biblique, à mes yeux, où la simplicité d'un instant va rencontrer l'infini de la grandeur et de la grâce de Dieu. Je vous propose, plus que d'ouvrir vos Bibles, d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos oreilles et d'écouter un peu comme dans un film ce récit.
Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit
« De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?»
L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit
« Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»«
Quoi ?»
leur dit-il. Ils lui répondirent
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Alors Jésus leur dit
« Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. »
Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant
« Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. »
Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre
« Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?»
Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent
« Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon !»
Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain.
Nous sommes avec 2 disciples qui marchent sur la route, qui s'éloignent de Jérusalem. Ils s'éloignent en fait du lieu de la promesse. Ils parlent entre eux, ils discutent. Et ce qu'ils échangent n'est pas seulement un souvenir, mais on pourrait dire que c'est une forme d'interprétation du désastre qu'ils viennent de vivre, de la désillusion qu'ils viennent de connaître. Ils racontent ce qu'ils ont vu, ils mettent en ordre les faits, ils produisent du sens avec, en tout cas, ce qu'ils ont compris. Leur récit est sans doute extrêmement sincère, mais il est incomplet. Ils ont vu la croix, mais non la résurrection. Ils ont vu la mort, mais non encore le relèvement. Ils ont vu l'événement qui s'est produit, la crucifixion, mais non son accomplissement. Ils ont, pour le dire autrement, les images, mais ils n'ont pas la clé leur permettant de comprendre ces images. Et c'est là d'ailleurs une autre vérité spirituelle importante. On peut avoir vu et n'avoir pas encore compris, on peut avoir assisté à quelque chose et manquer encore son sens, et je crois qu'on peut même parler de Dieu et ne pas reconnaître sa présence. Et c'est précisément là, à cet instant, que le Christ surgit. Non pas dans l'éclat, non pas comme montant les marches de Cannes sous les projecteurs avec le haut-parleur qui vous dit qui est en train de grimper là, non pas dans la démonstration, non pas dans l'évidence qui va terrasser, mais comme simplement un compagnon de route. Jésus lui-même s'approcha, il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et tout est là. Tout est déjà là. Le ressuscité, le vivant, marche avec eux. Il est présent. La réponse, la clé, chemine déjà au cœur de leur désarroi, mais ils ne le savent pas encore. Le Christ est là, réellement. Mais comme hors champ de leur conscience. Invisible, non absent. Voilé, non retiré. Présent, mais non encore reconnu. Et c'est ici, je crois, que le texte devient d'une immense profondeur spirituelle également. La foi chrétienne ne commence pas par une forme de maîtrise d'une évidence, mais par la découverte tardive d'une présence qui est déjà donnée. En fait, les disciples ne font pas venir le Christ par leur intelligence. Ils ne le produisent pas par leurs actes, par leur ferveur, par leur engagement. Ils ne l'inventent pas par leurs besoins. Il est déjà là. Et cela change tout. Car la foi ne consiste pas d'abord à faire apparaître Dieu, mais à reconnaître qu'il nous a précédés. Et ça, vous savez, ça n'est pas juste là dans ce récit d'Emmaüs, c'est une constante biblique. Dieu précède toujours le regard qu'il découvre. Emmaüs n'est pas une exception, c'est un motif biblique majeur que l'on retrouve dans toute l'Écriture. Dieu est souvent déjà là avant même d'être reconnu. On pourrait évoquer le Dieu de la Genèse qui marche dans le jardin avant même qu'Adam ose répondre. Le Dieu qui précède Abraham sur la route d'un pays qu'il ne connaît pas encore. Le Dieu qui entend la souffrance d'Israël en Égypte avant même que Moïse ne comprenne sa vocation. Le Dieu qui passe devant Élie, évidemment non pas dans le fracas, mais dans ce souffle doux et léger, le bruit d'un fin silence. Le Dieu qui se tient dans le temple alors que Samuel dort sans avoir reconnu sa voix. Et chaque fois, c'est le même mouvement finalement. Dieu est là avant d'être identifié, Dieu agit avant d'être nommé, Dieu appelle avant d'être compris, et le regard humain vient après. C'est une structure fondamentale de la foi biblique. La révélation n'est pas l'apparition d'un Dieu absent, mais le dévoilement d'un Dieu qui est, au contraire, déjà présent. Et cette logique, finalement, elle atteint des sommets dans ce moment dont nous nous souvenons dans cette période avec la croix, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Marie de Magdala prend le ressuscité pour un jardinier et c'est quand il va prononcer son nom que la révélation va se vivre. Les disciples qui sont au bord du lac ne savent pas d'abord que c'est Jésus. Les onze en Galilée le voient, mais le texte dans Matthieu 28 dit « Quelques-uns eurent encore des doutes ». C'est quelque chose de théologiquement décisif, il me semble, dont nous avons besoin vraiment de nous souvenir. Le ressuscité n'écrase pas ses témoins sous l'évidence, il ne s'impose pas par une preuve brutale. Nous aimerions souvent qu'il agisse ainsi, ce serait plus simple, plus facile. C'est parfois même ce que nous lui demandons dans nos prières. Mais non, il se donne dans une reconnaissance, et cette reconnaissance demande un déplacement intérieur. Il faut apprendre à voir autrement. À ne plus chercher le Christ seulement dans ce qui impressionne, à le reconnaître dans une voix, dans une présence qui accompagne, dans une parole qui brûle le cœur, dans une fraction du pain, un repas partagé, je vous parlais de la table tout à l'heure, eh bien oui, là, ce sont des lieux où le Christ peut se révéler. Alors, le ressuscité n'est pas moins réel parce qu'il n'est pas immédiatement identifiable, hein, ne nous trompons pas. Il est d'abord autrement présent. Alors, je n'ai pas le temps ce matin là de développer tout cela, mais je crois profondément aussi à une forme de théologie de la présence qui est valable pour Dieu, mais qui est valable aussi pour vous et moi. Quand on me demande ce que je viens faire à Cannes, alors j'explique souvent le travail, et j'ajoute souvent cette idée de la présence, parce que je crois que là où je suis, Dieu est avec moi. Puisqu'il vit en moi, je n'imagine pas un Dieu qui, arrivé à Cannes, se retire et me laisse travailler, et puis on se retrouve le soir à la maison. Dieu est là. Dieu est là avec moi. Et je crois profondément que tous les chrétiens qui sont là, actifs dans un lieu comme le Festival de Cannes, et vous pouvez le développer dans tous les lieux de vos vies personnelles, sont des représentants de Dieu, mais plus encore, sont ceux qui permettent à Dieu d'être là d'une façon particulière. Vraiment, j'ai pas le temps, mais je pourrais vous raconter des tas d'histoires de rencontres avec des gens plus ou moins connus, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas connus, qui travaillent dans le festival, mais parfois même avec des gens connus, avec de véritables échanges en profondeur. Il m'est arrivé de prier avec je pense à une directrice de festival, avec voilà des gens du milieu du cinéma. Tout cela sans que les choses ne se déterminent, ne se décident, ne se choisissent, mais juste parce que je crois à cette théologie de la présence, Dieu est là. Revenons à notre texte. Je peux être bavard, donc. C'est donc cela aussi ce que certains appellent le mystère pascal, cette présence plus profonde que la simple visibilité. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin ? Une interrogation qui est un peu un constat, une reconnaissance finalement. À Emmaüs, la reconnaissance du Christ ne commence pas en effet par les yeux. Sincèrement, je pense que les disciples reconnaissent le Christ non pas seulement au moment où ils partagent le pain, mais ils l'ont reconnu avant, sans qu'ils n'en aient réellement compte. Elle commence au plus profond de ces hommes. Avant d'être reconnu par la vue, le Christ est reconnu par le feu intérieur qu'il allume. Et je pense que la présence du Christ est de l'ordre d'une lumière intérieure, justement, d'une parole qui remet debout. Le dernier chant que nous avons chanté évoquait cela. Et on est au cœur, là encore, de ce récit de Pentecôte. C'est la même chose qui se produit. Un cœur qui recommence à vivre, premier lieu de reconnaissance du ressuscité. Non pas l'œil, mais le cœur. Et cela aussi est profondément évangélique. Le Christ se laisse d'abord discerner, non pas par la maîtrise, mais par l'embrasement intérieur qu'il doit susciter. Et là me donne l'occasion ce matin avec vous de parler un peu de cinéma, d'une façon un peu plus spécifique. Le cinéma comme une forme de parabole contemporaine. Parce que c'est ici que le cinéma peut justement être honoré, non pas comme un rival de l'Évangile, mais comme un lieu de résonance, une expression parabolique pour ouvrir des fenêtres sur notre monde, nos sociétés, leurs défis, les enjeux, leurs interrogations, et l'embrasement que le cinéma peut faire naître en nous, pour reprendre l'expression du texte entendu. Une amie qui travaille avec nous au jury écuménique disait... C'était pendant le culte qui avait lieu au temple en milieu de festival, que pour elle, tout chrétien devrait être un cinéphile ardent. Parce que si nous voulons aimer le monde, comme Jean 3,16 nous l'évoque, car Dieu a tant aimé le monde, c'est parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et je crois que nous sommes appelés justement à pouvoir aimer le monde si nous voulons lui annoncer la bonne nouvelle. En général, c'est quand on aime qu'on donne les bonnes choses. Les gens qu'on n'apprécie pas, on a moins envie forcément de les gâter. Alors si j'aime le monde, ce qui est de plus précieux en moi va être ce que je vais avoir envie de partager avec lui. Et donc pour aimer le monde, pour le comprendre, pour ressentir les choses, il faut le connaître. Et le cinéma est sans doute la meilleure des façons de connaître le temps que nous vivons, de connaître les préoccupations qui sont celles du monde dans lequel nous vivons. Jésus lui-même enseignait en parabole. Il racontait des histoires ouvertes, des récits traversés de troubles, de déplacements, de renversements. Ce matin, à la radio avec Jérémy, je disais, les paraboles ne sont généralement absolument pas marquées par le religieux. Reprenez les paraboles de Jésus, vous allez voir, il n'y a rien de religieux du tout dans ce qu'il raconte. C'est ce que nous en faisons qui peut nous ouvrir à la foi. Mais raconter l'histoire d'un semeur qui sème, hein, l'histoire d'un fils qui en a marre et qui veut prendre l'argent du père pour aller vivre sa vie, l'histoire d'un homme qui se fait attaquer sur une route, l'histoire d'une personne qui doit de l'argent à une autre, enfin, toutes ces choses n'ont rien de strictement religieuse. Hein. Je suis sûr que si Jésus était là au milieu de nous et nous racontait cette histoire, s'arrêtait là et partait, vous diriez « curieuse prédication hein. ». Étonnante, mais c'est cela qui est fantastique finalement dans les paraboles. C'est qu'il raconte des histoires ouvertes, des récits traversés donc par toutes ces choses que j'évoquais, qui ne forcent en aucun cas, aucunement à la foi, mais qui ouvrent, par contre je le crois, de tout mon cœur, un espace intérieur. Le cinéma fait aussi parfois, souvent cela. Il ne prêche pas, il n'assène pas quoi que ce soit, enfin du moins c'est là qu'il est intéressant quand il ne le fait pas. Il n'impose pas une doctrine, mais il déplace, il fissure des certitudes, il ouvre une brèche, il rend le regard moins paresseux, je crois, le cœur moins fermé et l'intelligence moins sûre d'elle-même. J'interviewais il y a 15 jours pour le journal Réforme le réalisateur Jean-Paul Salomé. Alors Jean-Paul Salomé, Les Braqueuses, Restons groupés, Arsène Lupin... Les femmes de l'ombre, la Daronne, la syndicaliste, et cette année, l'affaire Bojarski, qui est un des gros succès de l'année au cinéma. Il était ici à Cannes, président du jury du prix de la citoyenneté. Alors c'est un prix laïque qui est très proche par ses valeurs du prix du jury écuménique. Et il me disait dans cette interview, je le cite, « Je préfère des films qui montrent des choses que des films qui démontrent ». Et moi, j'ajouterais en plus, dans l'esprit de ce que je vous propose ce matin, des films qui parfois montrent, mais aussi qui montrent sans montrer, qui nous laissent percevoir. Frères et sœurs, en cela, certains films deviennent de véritables paraboles contemporaines. Non parce qu'ils parleraient explicitement de Dieu, mais parce qu'ils rendent à nouveau possible une interrogation sur la grâce, sur la justice, sur la faute, la miséricorde, la dignité, le pardon, l'espérance. Je vous assure que tout cela était présent dans ce festival pendant ces 15 jours, et parfois d'une façon bouleversante. Je pense à Ben Imana qui a reçu la caméra d'or, c'est-à-dire le prix du meilleur premier film dans la sélection Un Certain Regard, qui raconte toute cette période post-génocidaire au Rwanda, avec au cœur le pardon, avec au cœur aussi l'Église, puisqu'il y a des scènes d'Église, il y a... Et puis pas un film facile où on est dans du pardon à l'eau de rose, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais facile. Non, avec toutes les réalités. C'est un film bouleversant, on ne peut pas en sortir indemne. Et c'est peut-être cela, au fond, ce qui signifie l'importance d'avoir un jury chrétien à Cannes, un jury écuménique, composé à moitié de protestants et de catholiques, avec cette année, quand même, Vincent Miéville dans le jury, que vous connaissez sans doute en tant que libriste. Il a longtemps été le président de l'Union, un de mes très bons amis pasteurs, et qui faisait partie de ce jury. La vocation de ce jury, elle n'est pas de baptiser les œuvres. Elle n'est pas, comme je le disais à l'hôtel de ville à votre maire, David Lisnard, elle n'est pas là pour donner un certificat de morale. Non, pas du tout. Elle ne cherche pas du religieux là où il n'y en a pas. Sa vocation est beaucoup plus humble, plus exigeante en même temps, dans le besoin de discerner dans les récits du monde ce qui fait signe vers l'humain relevé par Dieu. Chercher ce qui, dans une œuvre, résiste au cynisme. Ce qui, dans une histoire, va sauver encore la dignité d'un visage. Ce qui, dans une mise en scène, va refuser de désespérer forcément l'homme. Ce qui, dans une parole, va laisser entrevoir, justement, la possibilité d'un pardon. Autrement dit, reconnaître, dans les images des hommes, les traces fragiles d'une lumière plus grande qu'elle, peut-être hors champ, mais bien présente. Et le regard chrétien n'est pas un regard de surplomb, c'est un regard d'attention. Il ne condamne pas d'abord, il cherche, il écoute, il discerne, il espère. Et quel beau prix œcuménique cette année, exceptionnel, qui vient rejoindre quatre autres prix, quatre autres jurys, qui pourtant ont des critères très différents du jury œcuménique. C'est la première fois que ça se produit ainsi. Parfois, il y a des concomitances entre deux prix, mais cette année... Palme d'or, prix François Chalet, prix de la citoyenneté, prix de la critique internationale et donc prix du jury œcuménique à Fjord de Christian Mungiu, qui est perçu par tous ces jurys comme un film important pour notre temps. Une sœur catholique me disait hier soir, dans la petite soirée qui concluait notre travail, il y a peut-être là un signe de Dieu. Et je lui disais, oui, je crois que vous avez raison, il y a quelque chose qui est dit là, dans cette unanimité des jurys, à donner parmi, alors dans la sélection officielle, 22 films, et puis pour certains jurys qui sont plus larges, une quantité encore plus grande de films, choisir le même film. Alors, un film très bien d'un point de vue cinématographique, mais où il y a plus que ça. C'est un film d'ailleurs, pour l'anecdote, qui se termine par une magnifique scène d'une jeune fille qui court comme si elle marchait sur l'eau. En fait, c'est un embarcadère et on ne voit pas l'embarcadère, on ne voit que l'eau. Et elle court et elle continue. Et moi, je me suis dit, mais elle va se noyer. Et non. Et là, on comprend qu'il y a l'embarcadère. Et on voit un immense navire qui est en train de quitter la rive. Je vous raconte pas tout parce que je vous laisse découvrir le film. Mais un journaliste... Écoutez bien, un journaliste non chrétien, aucun lien particulier à une foi quelconque affichée, me disait « C'est étonnant comment ce film se termine avec cette image biblique. » Et alors, pour tout vous dire, moi, je n'avais pas fait le lien sur le coup. Il dit « Ben oui, il dit c'est le Christ qui marche sur l'eau. » Et ce bateau qui part, il dit « Il y a quelque chose de... » de bouleversant, là, bibliquement, enfin. Et je dis, ah oui, bah, t'as complètement raison. C'est... Et après, on en parlait, et les membres du jury, et tous ceux avec qui j'en ai parlé, personne n'avait fait le lien. Mais qu'est-ce que c'est bien trouvé? Qu'est-ce que c'est beau? Alors, le jury œcuménique a relevé dans ce film, entre autres, que c'était un film qui constituait un avertissement puissant aux risques engendrés par les dérives idéologiques. Risque, et c'est ça qui est intéressant et fort dans ce film, c'est l'équilibre, la nuance qui est là constamment. Risque existant tant dans le domaine de la foi, avec toutes nos dérives. Alors, dans l'histoire, il y a une église évangélique qui est au cœur de... une église évangélique roumaine, très culturelle, conservatrice, mais sans plus, restant quand même très équilibrée, mais voilà, avec la culture qui est la sienne. Donc des risques existants tant dans le domaine de la foi que dans la dénonciation nécessaire de toute forme de violence contre les plus vulnérables. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que finalement, quels que soient les lieux, les manières d'aborder les choses, il y a toujours des risques. Des risques de vouloir dicter à l'autre la manière dont il devrait penser ou vivre. Il va sortir au mois d'août. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Et pour nous, j'arrive à ma conclusion, la question au fond n'est pas seulement celle du cinéma, naturellement. Et puis je n'irai pas jusqu'à ce que disait cette dame que tout chrétien doit être forcément un cinéphile actif et engagé. On peut avoir d'autres lieux de résonance qui nous correspondent davantage, naturellement. Mais c'est la question derrière tout ça, celle de notre vie et de notre foi. Nous aussi, nous habitons souvent des récits inachevés. Nous aussi, nous traversons des scènes dont nous ne comprenons pas forcément le sens. Et je pense que vous me rejoindrez tous là. Nous aussi, nous croyons parfois que tout est perdu parce que nous ne voyons pas encore l'issue, un peu comme ses disciples marchant et quittant Jérusalem. Et l'Évangile nous dit « Attention, attention au hors-champ. Ouvre les yeux, autrement. » Emmaüs devient alors bien plus qu'un récit de résurrection. Je pense que c'est un peu comme une grammaire de la foi. Nous aussi, souvent, nous ne voyons que la scène immédiate, qui peut être faite de perte, de fatigue, de déception, d'obscurité, de maladie, de route sans gloire, d'échec, de tristesse. Vous pouvez, enfin, je mets des trois petits points là parce que vous pouvez en rajouter. Alors, il y a aussi des belles choses, hein, la joie, l'expérience agréable, tout ça, mais on se concentre plus facilement dans ces cas-là, sur les choses difficiles de l'existence. Et alors, nous croyons lire correctement notre histoire. Nous pensons regarder honnêtement le film de notre vie, le désastre parfois de notre vie. Et comme les disciples, nous savons raconter ce qui s'est passé, mais notre récit est souvent trop court, l'écran trop restrictif. Il manque la perception et l'analyse de cet hors-champ. Et dans cet hors-champ, de ce que Dieu a déjà fait, y fait encore et fera. L'Évangile ne nie pas nos blessures. C'est ça que j'aime aussi dans le texte biblique. Il ne nous raconte pas des histoires de vaillants guerriers qui réussissent tout, qui vivent tout magnifiquement bien. Non. Il affirme que notre lecture du réel est souvent incomplète, que quelque chose nous échappe, ou plutôt quelqu'un. Le Christ est peut-être déjà là, et on pourrait même enlever le peut-être, dans ce que nous croyons vide, dans ce que nous croyons clos, dans ce que nous appelons absence, hors champ peut-être, mais non absent justement. Et c'est aussi cela la foi, et c'est surtout cela la foi, c'est je crois apprendre à croire que le Christ est déjà à l'œuvre, même lorsqu'il semble hors champ, que quelqu'un marche peut-être déjà avec nous, mais que nous ne l'avons simplement pas encore reconnu. Amen. Et je vous invite à prier quelques instants avant. Je suis très heureux qu'il y ait une harpe. J'aime beaucoup cet instrument. J'ai fait tout le carême protestant là sur France Culture avec une harpiste qui accompagnait nos émissions. Et je suis très heureux que la prédication se termine ainsi. Mais prions avant. Merci Seigneur pour ta présence. cette présence qu'on ne remarque pas toujours, souvent. Mais je crois que tu es là, présent, hors champ, mais présent, toujours. Seigneur, c'est aussi là qu'est mon espérance. Ce matin, pour cette communauté, pour chacun d'entre nous, Seigneur, quel que soit peut-être là où il est sur ce chemin, comme ses disciples, quelle que soit l'émotion, quelle que soit la situation qui est là dans notre cœur, pouvoir nous rappeler que tu es là à nos côtés, Seigneur. Et que tu nous apprends aussi à voir autrement. Aiguise notre regard, Seigneur. Aide-nous à justement discerner autrement parfois ce qui nous entoure. Autant dans ce qui nous concerne directement dans nos propres histoires que dans ce qu'il y a autour de nous. Dans les histoires de ceux qui sont là à nos côtés. Dans la réalité d'un collègue de travail, d'un voisin, d'une personne rencontrée sur la route, d'un lieu de festival ou de séminaire ou de rencontre familiale, Seigneur. Rends-nous attentifs et que ton esprit que nous fêtons d'une certaine manière aujourd'hui avec cette fête de Pentecôte, que ton esprit soit celui qui en nous aiguise notre regard, notre attention et ainsi notre amour pour ce monde dans lequel tu nous as placés. Nous te remercions, Père, en Jésus-Christ. Amen.